Je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu. Même si nous sommes peu nombreux, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, enfin découvrir, je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous ne connaissez pas ce dont nous allons parler, mais ce que nous allons redécouvrir ensemble, mériterait une immense assemblée, puisque c'est un texte révolutionnaire, un moment fondamental de la vie de l'Église, de notre vie à nous, qui va être étudié ce matin. Donc nous continuons les Actes des Apôtres. Nous sommes arrivés au chapitre 10, qui est donc l'épisode fameux de la vision de Pierre avec la nappe pleine d'animaux impurs, et donc la visite chez Corneille, le centurion, qui va être baptisé en tant que premier païen, si je puis dire. Donc c'est ce texte-là que nous allons étudier. Comme d'habitude, j'ai la tentation de ne pas isoler ce passage du reste des Actes des Apôtres, car c'est vraiment une suite d'événements extrêmement importants qui sont compris dans ce livre. Je l'avais déjà fait il y a quelques semaines là, à propos de l'épisode de... Saphira et Ananias, vous savez, qui avaient déposé le prix de leur champ au pied des apôtres et qui étaient morts de leur mensonge à l'Esprit de Dieu. Et j'avais déjà, à cette époque-là, fait la marche arrière des premiers chapitres des Actes des Apôtres. J'aimerais le recommencer, parce que c'est important, et continuer ce qui s'était passé donc entre le chapitre 5, donc, que j'avais étudié, et ce chapitre 10. Entre-temps, Emmanuel et Daniel, ça c'est terrible, ça, pardon, Daniel. Je voyais que t'as que de cheval, c'est pour ça que j'ai plus le visage. On continuait. Donc, rapidement, mais c'est vraiment extrêmement important pour comprendre ce chapitre 10, de revenir en arrière. Alors, je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là et pour qui ça serait une ressucée, mais ça fait pas de mal à chaque fois de se remettre dedans. Donc, très très rapidement, je vous rappelle, chapitre 1, enlèvement de Jésus-Christ, désignation des apôtres, puis la Pentecôte. La Pentecôte, on est bien d'accord, c'est l'Esprit qui descend uniquement pour les Juifs, puisque le discours inaugural de Pierre, ce jour-là, commence par « hommes israélites ». Donc ce sont tous les Juifs pieux qui sont venus à Jérusalem pour la Pentecôte, qui entendent ce discours, et qui donc sont témoins de cette arrivée de l'Esprit. Là, nous avons, je l'avais dit précédemment, nous savons qu'à cette époque, Jérusalem, c'est environ 60 000 personnes. Les historiens sont d'accord sur ça. Au début, il y a 12 apôtres. À la fin de cette Pentecôte, la Bible nous dit qu'ils sont 3 000. Il y a la guérison du boiteux, puis l'arrestation de Pierre et de Jean, qui sont relâchés finalement parce qu'on ne trouve pas suffisamment d'arguments convaincant pour les condamner, puis surtout ils commencent à avoir du monde autour d'eux, et là il est dit que ils sont après ceci environ 5000 hommes, c'est-à-dire si on rajoute les femmes et les enfants, on doit arriver à 6-7000. Donc on était, j'avais dit il y a quelques semaines, à environ 10% de la population de Jérusalem à ce moment-là, ce qui n'est pas rien. Ça commence vraiment à bouger et à faire beaucoup de bruit. Ensuite, ces 6000 personnes, en gros, se réunissent en vie communautaire, nous l'avions vu, ils partagent les biens, d'où l'épisode d'Ananias et Saphira dont nous avions parlé. Des miracles et des prodiges se font au milieu d'eux, au verset 12 du chapitre 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc, il y a une masse importante de gens qui commencent à croire à Jésus, à suivre les apôtres, à se convertir, et même ceux qui ne le font pas, a priori, sont soutenus au moins moralement par ce qu'on appelle ici le peuple, c'est-à-dire la vox populi, qui ne leur met pas de bâton dans les roues, mais qui suivent ça de façon plutôt positive. Puis, le nombre augmente encore, on le lit en 5, donc juste après, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Vous imaginez, ce n'est toujours pareil que je l'avais dit, imaginez 60 000 personnes, c'est en gros grâce, si on commence à encombrer le boulevard Thiers de gens dans des lits portatifs que l'on place là, qu'on place des malades sur les couchettes dans le boulevard Victor Hugo, ben, ça va commencer à faire du bruit, ça va commencer à bouger, ça ne peut pas passer inaperçu. Et donc, avec toute cette effervescence qui se fait autour de cette nouvelle communauté qui prêche le nom de Jésus et qui, en plus, non seulement d'avoir la parole, a aussi l'action, puisque les gens vivent ensemble, il y a des transformations personnelles dans les vies avec, a priori, moins d'égoïsme, puisqu'on met tous les biens en commun, il y a des actions fortes comme les guérisons des malades, c'est quand même énorme, c'est vraiment des choses qui font que les gens vont être touchés, même si c'est superficiellement, on ne peut qu'être touché par de tels miracles. Eh bien, cette effervescence va faire tache d'huile, si je puis dire, puisque nous lisons juste après « La multitude a couru aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Donc là, la contagion, si vous permettez ce terme, gagne l'extérieur de Jérusalem. Là, on commence à aller à Mougins, à Valbonne, peut-être même jusqu'à Montauroux, si on traverse la vallée de la Siagne, et on amène des personnes pour profiter de cette vie communautaire qui permet à certaines personnes de guérir tous ceux qui sont apportés. Vous imaginez que de tels événements ne peuvent passer inaperçus, et jusqu'ici, tout se passait bien, jusqu'à ce chapitre 6, tellement bien que, donc, comme le disait Emmanuel dans un précédent prédication, les diacres sont installés, des nouveaux diacres pour permettre à tout ce monde-là de vivre de façon correcte et intelligente et organisée. Et c'est ici que, au chapitre 6, donc, la bascule se fait, puisque dans la vie des hommes, il y a toujours des moments hauts, des moments bas, des jours de soleil, des jours de pluie, et là, pour la communauté, c'est les jours de pluie, donc ça avait été vu par Étienne Emmanuel ou Daniel, je ne sais plus, donc c'est la fameuse arrestation d'Étienne, qui est la suite de la jalousie des chefs, dont il est parlé au chapitre 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti de Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Jalousie, puisqu'évidemment, leur pouvoir est contesté, et forcément, ils réagissent. Donc, nouvelle arrestation, mais sans violence. Pourquoi ? Verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Toujours cette vox populi qui fait que on intervient, mais en tenant compte de l'ambiance générale qui ne permet pas d'avoir une action musclée, sous peine de créer une forme d'insurrection qui serait évidemment tout à fait dommageable, parce que dans ces cas-là, les Romains ne demandaient que ça pour intervenir et ne pas faire le tri entre les bons, entre guillemets, et les méchants, et en profiter pour faire un petit zigouillage général. Donc, les apôtres sont libérés, mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de voir quel changement dans Jérusalem. On est quelques mois après la mort de Jésus. Il y a eu 40 jours entre sa mort et son enlèvement, enfin sa résurrection. Il y a la Pentecôte qui arrive dans les semaines suivantes. Donc on est vraiment dans la même année. Et vous vous souvenez, comme Jésus avait été traîné, bafoué, humilié, frappé, sans que la rue réagisse du tout. Au contraire, il y avait plusieurs passages où le monde dans les évangiles, une foule hargneuse et haineuse contre lui, et qui l'accompagnait avec des quolibets jusqu'au gibet. Là, c'est exactement le contraire. On a l'impression que dans Jérusalem, une forme de liesse générale, enfin qui est quand même suffisamment importante, même si ce n'est pas partagé par toutes, pour que tout ce qui se passe, et à la limite qui est bien plus dérangeant que ce que pouvait faire Jésus, parce que là ce sont des actions de masse menées par des milliers de personnes, eh bien là il y a une ambiance générale à Jérusalem totalement différente de celle qu'il y avait au moment de l'arrestation de Jésus. Et c'est dans cette, c'est à ce moment-là que nous sommes, pour ainsi dire, dans une ambiance de guerre civile. Puisque, évidemment, 6 000, 10 000, 12 000 peut-être sur 60 000, même s'il y a des sympathisants, ça ne fait pas la totalité de la population. Et il y a, quand il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir qui se met en place forcément. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que Étienne est arrêté, ce qui n'est d'ailleurs pas empêché par la foule des croyants. Ils auraient pu arriver à quelques milliers et dire non, on ne veut pas. S'ils ne font pas, c'est qu'il y avait aussi une partie de la population qui était puissamment contre ce mouvement-là. Et fin de l'âge d'or de la communauté, Étienne est arrêté, Étienne est lapidé, Étienne est tué. Et que se passe-t-il ? Chapitre 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande... Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà, c'est terminé. La parenthèse, l'état de grâce, comme on dirait en politique. Le pouvoir juif a repris le dessus et il y a une fuite générale. Alors on pourrait penser que c'est le début de la fin, malheureusement, et que le pouvoir des Sadducéens a gagné. En fait, non. Ils ont créé eux-mêmes le propre piège de leur chute sur le long terme, puisque en mettant en place cette persécution, en forçant ces milliers de personnes donc à fuir Jérusalem pour ne pas être arrêtées, emprisonnées, voire tuées, eh bien, ces personnes se répandent dans les régions avoisinantes. Et en se répandant, ils répandent avec eux la parole. Donc, ce mal de la persécution, vu au premier degré, est en fait un bien pour la parole de l'Évangile, puisqu'en fait, ça va ouvrir la parole vers l'extérieur. Et on voit, au chapitre 8, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand on sait, à l'époque de Jésus, il n'y a pas très longtemps donc, le fameux épisode de la Samaritaine, quel changement ! Je vous parlais d'une évolution incroyable. Là, les Samaritains, on ne dit plus vous êtes des juifs à part, pas des bons, il faut pas se mélanger. Allez hop, en Samarie, la parole a été portée, et là, ils sont totalement intégrés dans les foyers des nouveaux croyants. Et nous arrivons au baptême de l'eunuque, donc qui a été, c'était Daniel qui en avait parlé. Où là c'est comme un espèce de coup d'essai vers le monde non juif. Alors c'est sur une personne, c'est fait de même tout à fait en catimini, puisqu'il n'y a que deux témoins, Philippe et l'eunuque, mais l'action a lieu, cet homme est baptisé, cet homme accepte la parole de Dieu, accepte Jésus, et juste après, que Philippe ait fait ça, donc Daniel nous avait lu, au verset 40. Tandis que joyeux l'eunuque poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, la bulle de Jérusalem a explosé. C'est répandu autour. C'est répandu dans les régions juives, autour de Jérusalem, évidemment. Deuxième coup de grâce, parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif, vous avez vu, il se passe quelque chose de négatif. Action, réaction, comme il disait dans le film. Saül arrive et il prend les choses en main pour contester le fait que la parole se répande partout. Et puis, donc, vous savez qu'il est arrêté miraculeusement par Jésus, qu'il se convertit. Et c'était donc le chapitre 9. Vous voyez, nous arrivons à notre chapitre 10 très très rapidement. Et à la fin quasiment du chapitre 9, Une fois que Saül est converti, il est écrit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Les miracles, pendant ce temps-là, continuent hors Jérusalem. Donc, il est dit à la fin du chapitre 9, à Lydd, donc ça c'est des petites villes autour de Jérusalem, près de la côte plutôt, Dorcas est ressuscité à Joppé, et la prédiction de Gamaliel, vous vous souvenez, au chapitre 5, verset 38-39, qui avait été, dont on avait parlé, quand les apôtres avaient été arrêtés, Gamaliel était intervenu au conseil du Sanhédrin pour dire « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Donc, en quelque sorte, ils ont laissé continuer l'expérience, même si parfois ils ont mis le holà d'une façon violente, et l'expérience donne raison au fait que cette œuvre vient de Dieu, puisqu'elle est indestructible, puisque même quand on la combat, le fait de la combattre la fait augmenter et pousser et se répandre ailleurs. Donc, la bulle a éclaté, parce que la nature avance toujours, la nature divine, la nature voulue par Dieu, c'est la vie au sens symbolique du terme. On sait, nous, au sens tout à fait terrestre, que quand on s'occupe pas d'un champ, d'un jardin, au bout de quelques années, ben, la nature pousse partout, c'est tout à fait puissant et riche. Il faut toujours lutter contre la nature pour la dominer, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne se répande pas partout si on veut en être le maître. Et bien là, c'est pour la vie symbolique donnée par Dieu, la nature divine avance toujours, progresse. Si dans un coin elle est arrêtée, asséchée, hop, elle va redémarrer ailleurs. Il y a une espèce de prolifération inarrêtable de cette vie divine. Et vous savez très bien, vous-même, nous le savons, que cette vie que nous avons reçue, même si à certains moments nous avons le sentiment qu'elle s'assèche pour mille raisons, parce qu'on a nos propres soucis, nos propres problèmes, on a l'impression que ça y est, c'est terminé, hop, il suffit de tellement peu de choses, et même s'il n'en restait qu'un petit grain de foi au fond de nous, eh ben, elle va redémarrer et redonner des fleurs magnifiques, et à chaque fois on est surpris d'être encore debout et d'être toujours tenu par cette foi-là, même si on avait le sentiment qu'on n'en était même plus digne ou qu'on ne la possédait plus. Une fois que Dieu s'est mis quelque part, que Dieu s'est mis chez quelqu'un, que Dieu s'est posé, il trouve toujours la place pour exister, pour grandir, pour faire du bien. Et ces nouveaux territoires à conquérir, ils arrivent maintenant. Jérusalem a été conquis en quelque sorte, les régions alentour aussi, mais le peuple juif qui vit ici, ça représente pas grand monde. Au bout d'un certain temps, ça va tourner en rond. Et si ça tourne en rond, si ça ne peut pas sortir, ça va moisir, ça va pourrir. Donc il faut ouvrir parce que ça a besoin d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus fort. Et c'est ce fameux chapitre 10 qui arrive. Je vous disais qu'il était révolutionnaire parce que il va vraiment introduire notre temps à nous. Complètement. C'est-à-dire que si on reprend, encore une fois, excusez-moi de faire ce bilan-là, mais il me paraît essentiel, si nous reprenons très très rapidement, en 30 secondes, l'histoire du monde, ben toute l'histoire du monde va arriver à cet épisode-là. C'est la création du monde, c'est la création de l'homme, de la femme, c'est la révélation de Dieu à Abraham pour créer le peuple élu. Puis ensuite, c'est l'arrivée de Jésus dans le monde. C'est Jésus qui meurt pour nous, qui est ressuscité pour que nous puissions de nouveau être participants de cette nature divine. C'est l'Esprit qui est donné par la Pentecôte. Donc c'est Dieu qui est d'abord apparu, puis Jésus, puis l'Esprit. Et maintenant, avec cet épisode-là, c'est le monde entier qui est de nouveau mis en perspective divine. C'est-à-dire le monde qui s'était retiré de Dieu dès la chute de la Genèse, Et Dieu n'était revenu dans ce monde que par le peuple juif, le peuple élu. Puis l'arrivée de Jésus pour recommencer à planter la fameuse graine dont je parlais, avec l'épisode que nous allons lire maintenant, ça y est, la boucle est bouclée. Quand Dieu crée le monde, il le crée pour tous les hommes, il se donne pour tous les hommes. Eh bien, avec cet épisode-là, il se redonne à tous les hommes. À nouveau, la porte est complètement ouverte. Donc c'est pour ça que c'est un passage absolument essentiel. Parce que, à la limite, il est la finalité de tout ce qui a eu lieu auparavant. Et c'est peut-être pour ça qu'il dure si longtemps. Dans les Actes des Apôtres, c'est le plus long de tous les chapitres. Il fait, si on compte par rapport à mes propres colonnes de ce livre-là, il fait 4 colonnes. José, lui, par son ordinateur, il sait exactement le nombre de versets. Quand tout à l'heure je dis ce périsme, mais là, il est très très long, il fait 42 versets. Oui, il est 38, merci. 48, voilà, parce que c'est un moment central. Et il y aura avant Corneille et après Corneille. Et l'après Corneille, c'est nous, c'est complètement nous. Ce qui s'est passé là, c'est pour nous, c'est encore plus que la Pentecôte, qui concernait que les Juifs. Là, on est totalement rentré à ce chapitre 10 dans l'histoire moderne de l'Église. Et d'ailleurs, le reste de la Bible ne va être que des consignes, des conseils, des comment vivre ce temps-là, jusqu'au dernier temps qui va être l'Apocalypse et les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Donc, je vais lire ce chapitre 10, parce que... Mais je vais essayer de bien le lire rapidement, parce que là j'ai entendu un... Donc, j'ai de mettre la voix, etc. Parce qu'il est vraiment important. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont répétées, mais le centenier, c'est nous, et j'en viendrai après, j'en parlerai. Il faut entendre ce passage-là. Parce que c'est grâce à ce passage-là que nous sommes ici aujourd'hui, même si on n'est que 15 ou 20. Et que dans le monde entier, tout le monde, plein de gens se réunissent et partagent cette foi-là. C'est grâce à ce chapitre. Donc, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Des regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Mais qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Ah non, 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 Seigneur, car je n'ai rien à manger jamais de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sort de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Mais maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple et aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, c'est un chapitre magnifique, écrit dans une langue toute simple, qui raconte une histoire que tout le monde peut comprendre, mais cette histoire, c'est notre histoire. Et c'est le résumé de toute l'histoire de la Bible pour arriver à ce moment-là. Et s'il fallait, quand on fait de l'évangélisation, ne lire qu'un extrait de la Bible, ça serait sans doute celui-là, parce qu'il contient tout ce qui est compréhensible pour des gens qui sont pas juifs, qui n'ont pas tout l'arrière-plan culturel biblique nécessaire. Tout est dit là, et les réactions des gens confrontés à cette histoire sont totalement humaines, facilement compréhensibles, et j'aimerais juste qu'on essaye de voir rapidement pourquoi c'est si long, parce que si c'est si long, c'est qu'il y a des choses qui nous sont dites à l'intérieur de ce long passage. Alors, la première chose intéressante à voir, c'est les visions. Vous voyez que ça fonctionne beaucoup par vision. Corneille a une vision, Pierre a une vision. Au chapitre précédent, Ananias avait une vision pour aller chercher Saül aveugle. Philippe avait une vision pour aller voir l'Éthiopien. En fait, on se rend compte que Dieu utilise parfois les visions. Il avait fait à l'époque d'Abraham pour lui montrer qu'il aurait une grande descendance. Il le fait avec Jacob, pour lui dire « tu dois aller en Égypte, ne crains rien », on a l'impression qu'à certains moments, dans l'histoire de la Bible, et surtout dans les Actes des Apôtres, Dieu utilise le 49.3. Vous savez, en politique, le 49.3, c'est quand on doit faire passer une loi, on en discute au Parlement, puis ça va à la Chambre des députés, le Sénat et tout, puis ça dure une éternité, et quand il faut aller vite, parce qu'on n'a plus de temps à perdre, le gouvernement dit 49.3, c'est-à-dire il y a pas de vote, c'est un vote bloqué, vous dites oui tout de suite, vous n'avez pas le... Enfin voilà, ça passe tout le temps sans que les parlementaires et le droit de discuter et d'amender. Eh bien, c'est un peu le 49.3 de Dieu, ces visions. Quand il sent qu'il faut passer un coup d'accélérateur et que l'histoire a besoin de gens sûrs, mais immédiatement au courant de l'action à mener, il envoie un ange, il envoie une vision, parce que c'est dit, hein, vision, ange, ça revient au même, et comme ça, on passe tout de suite à l'étape suivante. Et là, dans cette construction de l'Église vivante, de l'Église d'aujourd'hui, Dieu passe à la vitesse supérieure, il faut aller vite, il faut être précis, il faut être rapide, on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Donc, on envoie les visions, ce qui permet en effet de donner aux hommes des ordres précis qui sont évidemment suivis des faits. Pourquoi sont-ils suivis des faits ? Parce que les gens qui reçoivent ces visions, d'abord étaient en état de les recevoir et en état d'y obéir. Prenons notre centenier. Alors c'est quand même étonnant que la première personne à qui, en tant que païen, il va donner une vision, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas du tout recommandable vu de l'extérieur. C'est un soldat romain, donc c'est un soldat d'une armée d'occupation. C'est pas un simple soldat, c'est un chef. Centenier, il avait beaucoup d'hommes sous sa responsabilité. Donc évidemment, c'est un non-juif, c'est un étranger, c'est un soldat d'occupation. Et pourtant, c'est à lui que va être adressée l'incroyable responsabilité historique d'être notre ancêtre à nous tous. Alors, je ne dis pas que nous sommes tous, bon, a priori, tous non-juifs, c'est possible. Que nous sommes tous une armée d'occupation, je ne sais pas. Des étrangers, oui, à un moment ou l'autre, nous étions étrangers à Dieu, étrangers à son amour, étrangers à ce qu'il voulait pour nous. Et cet homme-là, il faisait partie de ce que les Juifs appelaient les craignants Dieu. C'est-à-dire tous les païens qui avaient du respect pour la religion juive qui craignaient ce Dieu qui était prié par les Juifs. Et donc, c'était leur nom, les craignants Dieu, mais ils n'étaient évidemment pas participants du culte juif. Mais cet homme, au-delà de son identité militaire, il est dit qu'il est pieux, qu'il est charitable, et surtout qu'il n'est pas seul, il est au milieu d'une famille, il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est-à-dire qu'il a créé une espèce de communauté de craignants Dieu, ces fameuses personnes qui ont au fond de l'âme la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, même si elle n'a pas été structurée ensuite par un catéchisme, pour employer un terme moderne, de qui fait qui est quoi. Et là encore, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez. Ensuite, ce que vous savez, ça vient grandir autour de ce que vous êtes profondément, de votre sincérité. Mais si vous n'êtes que du savoir sans la sincérité, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être à la limite, être sincère et ne rien savoir. Nous, on a l'exemple dans la Bible de plusieurs personnages qui avaient Dieu en eux, même s'ils n'étaient pas capables d'expliciter le A plus B de l'affaire. Donc cet homme est donc choisi par Dieu pour les qualités que je viens de dire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va obéir immédiatement à cette vision. Alors Pierre, il doit le connaître normalement, il a dû entendre parler de Pierre en tant que craignant Dieu, puisque il est dit un peu plus tôt que, je l'ai dit, Philippe est allé en Galilée. Il est allé à Césarée, je veux dire. Césarée, c'était le siège de l'armée romaine. Césarée, c'est le long de la mer, là. Donc il faut savoir que Césarée et Joppé, c'est actuellement la ville de Tel Aviv. Donc c'est 40 kilomètres. Donc à l'époque, c'est 40 kilomètres à pied ou à cheval, d'où les 4 jours. Donc il faut quand même faire l'aller-retour. Donc il obéit en n'y allant pas lui-même, car l'ange lui dit « Envoie des hommes à Joppé et fais revenir Pierre ». Il aurait pu dire « Attends, s'il y a Pierre à voir quand même en direct, je préfère y aller moi-même, c'est quand même moi le chef, je préfère moi avoir le premier contact ». Non, 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 toi tu restes, tu envoies des hommes. Il obéit, il envoie des hommes. Il fait confiance. tout ce que l'ange lui a dit, la vision qu'il a reçue, il aurait pu la garder pour lui. Source de pouvoir, je sais qu'un secret, allez chercher, mais moi je sais pourquoi. Non, non, il est dit, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Ce qu'il sait, tout de suite il le donne. Bon, il ne le donne pas à n'importe qui, il les donne à des gens de confiance, des gens qui sont comme lui, pieux, croyants, etc. Ensuite, il n'a pas honte de ce qu'il sait et de la personne qu'il va accueillir. Il aurait pu dire, oula, il y a Pierre qui vient, je vais le chercher moi-même, je vais lui parler en catimini, puis ensuite, selon ce qu'il me dit, etc., je vais peut-être pouvoir faire le malin et ramener du monde, etc. Non, non. Tout de suite, il est dit que quand Pierre arrive chez lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies, des amis et des parents. Ce sont des textes, ce sont des mots qui sont écrits. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. C'est-à-dire des gens et qui ne peuvent pas tricher, des gens pour, dont la vie compte. Enfin, il est humble. Vous avez vu, quand Pierre arrive, que fait-il? Première chose, il se prosterne. Pierre, évidemment, le relève, etc. Et enfin, il est à l'écoute. Au verset 33, « Aussitôt j'envoie quelqu'un vers toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Donc, ce centenier, il a toutes les attitudes que j'espère nous avons, nous, que nous devrions avoir. Il est en prière, il est pieux, il fait en sorte qu'autour de lui, dans sa vie de tous les jours, il soit un bon exemple pour que sa maison accepte ce qu'il est dans sa crainte de Dieu. Il a aussi, il n'est pas que pensée, il est aussi action, puisqu'il fait des aumônes, et il est prière, il prie Dieu continuellement, et ensuite, à l'intérieur de ça, il est obéissant, il est confiant, il est fier de ce qu'il croit, il est humble avec les gens autour de lui, et humble aussi face à la personne dont il pense qu'elle est supérieure à lui, parce que c'est Pierre, et il est à l'écoute de ce qu'il y a à dire. Donc ce centenier résume en quelque sorte toutes les qualités du croyant lambda que nous sommes ou que nous devrions être tous. Donc ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi. Et la deuxième personne de cet exposé, c'est évidemment Pierre. Alors Pierre, c'est tout à fait amusant parce que il est tel qu'on le connaît. Lui, il n'a pas évolué. Il arrive, déjà, il a faim. C'est quand même un épisode amusant. Il monte sur le toit pour prier, ce qui est déjà pas mal, parce que, donc, un homme de prière, mais ça, je pense que le fait d'avoir été au contact de Dieu, ça l'a quand même poussé à être un homme d'action, certes, mais aussi un homme de prière. N'oubliez pas qu'au chapitre précédent, juste avant, il a ressuscité Dorcas. Et si je ne me trompe pas, c'est la première résurrection depuis Jésus. Et c'est la première résurrection qui n'est pas faite par Jésus. Et c'est lui qui a ce pouvoir-là, qui crée cette résurrection-là, qui ressuscite cette femme. Donc, forcément, c'est un sacré choc. Ici, on dit qu'il y a eu des miracles, des guérisons, mais il n'est pas fait mention de résurrection. Là, oui. Donc là, il s'est dit, quand même, tout ce qui se passe dans Jérusalem dont nous avons parlé, en plus, moi, j'ai ce pouvoir-là de pouvoir ressusciter quelqu'un. Donc, il doit être quand même bien sous le choc. Donc, il va prier, mais il a faim. Donc, dans sa prière, il y a un moment où il dit, il faut que j'arrête de prier, parce qu'il faut que je mange. Donc, ça, c'est tout à fait Pierre. Donc, la fameuse vision. Mais cette vision-là, comme à chaque fois que Jésus lui a parlé, il ne comprend pas. Puisque, de nouveau, vous avez vu, c'est noté trois fois, il faut que l'ange répète, non, ce n'est pas souillé aux yeux de Dieu, donc ça ne peut pas être souillé à tes yeux, à toi. Et, non seulement il est lent à la compréhension, presque, il regarde un peu de devant ce qu'on essaie de lui imposer comme pensée, mais il est vraiment très lent à comprendre, parce qu'une fois que l'ange est parti, on aurait pu penser que c'est bon. Ben non, juste après, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Au verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, à chaque fois, on sent que, oulala, quand même, on sent la grosse brute épaisse, là, mais Pierre, dans toute sa splendeur d'homme puissant, fort, mais complètement dépassé par ce qui lui arrive, qui est vraiment dans les mains de Dieu. C'est intéressant de voir, quand on parle du centenier, on a le sentiment que c'est la volonté humaine. Et il rencontre la volonté de Dieu. Ce chapitre, c'est la rencontre de ce que l'homme attend, souhaite, le centenier. Il prie, il fait l'aumône, il est bon, il essaye d'y arriver, il est obéissant, il fait vraiment toutes des qualités remarquables. Et en face de lui, il rencontre un homme qui, s'il n'avait pas rencontré Dieu, serait sans doute 1000 fois humainement inférieur au centenier. Ça paraît évident quand on compare les deux personnalités. Seulement, un a reçu Dieu, donc du coup, il devient messager de Dieu, et en ce sens, il prend une valeur extraordinaire. Et l'autre, qui est juste un homme bon, va rencontrer Dieu. Et c'est la rencontre de ces deux êtres totalement dissociables que seul l'amour de Jésus permet qu'ils se rencontrent. J'ai souvent dit que dans cette église, et on est plusieurs à le penser, et c'est ce qui fait la force de notre assemblée, c'est qu'on est de milieux très différents, d'éducation différente, etc. Et que si on n'avait pas eu l'amour de Dieu pour nous rencontrer, mais il y a plein de gens que je n'aurais jamais vus de ma vie. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici. C'est la volonté d'un homme de s'élever et la volonté de Dieu de venir vers nous. Ça c'est Dieu par Pierre qui descend, et c'est le centenier, nous, qui essayons de monter vers lui. Et c'est la fameuse verticalité qui est toute l'histoire de la Bible. Dieu descend vers les hommes, appelle les hommes à monter vers lui. Et là, on en a une image qui n'est pas symbolique, une image réelle. La rencontre de deux êtres humains, de chair et de sang, qui vont participer à cette rencontre-là extraordinaire. Et c'est d'autant plus intéressant que Pierre, encore une fois, ne contrôle rien. Quand on écoute ce que le centenier lui dit, « Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit. On a l'impression qu'il ouvre la bouche, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle à sa place. Et d'ailleurs, tout son discours est absolument nickel, parfait. Rien à voir avec Pierre, c'est pas lui-même que pensait du sens de la vision, il réfléchissait encore à la vision. À aucun moment, il dit « Bingo, j'ai compris !» pendant qu'il est à cheval pendant les 4 jours, ou à pied, je sais pas comment il est. Non, non. Dieu se sert de Pierre pour exprimer la vérité voulue par Dieu maintenant, c'est-à-dire que Dieu est pour tous, tout le monde peut a droit à être sauvé par Jésus, tout le monde a droit d'être fils de Dieu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là fortement intéressant de voir que le discours de Pierre est très court. Et c'est en ça que je disais que si on évangélisait, il faudrait à la limite lire que ce chapitre-là. Parce que si vous lisez le discours de Pierre, je ne vais pas le lire, je vous rassure, au chapitre 3, quand il est, après la guérison du boiteux, il parle aux hommes israélites, tel que c'est dit. Il remonte au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, qui glorifiait son serviteur, etc. Il refait toute la marche jusqu'au début pour qu'ils comprennent. Lui, il commence directement, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Donc lui, il leur parle à eux de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont vécu. C'était il y a quelques mois. Donc ça, ils peuvent le comprendre. Tiens, leur arrière-plan culturel, ils s'arrêtent à Jésus. 3 mois avant, 6 mois avant, 1 an avant. Tout le reste, c'est bien, c'est là, ça en fait partie, on l'oublie pas. Mais c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. On commence sur des nouvelles bases. Nouvelle base, c'est Jésus. Tant mieux, ceux qui savent d'où vient Jésus, Abraham, etc. Très bien, mais c'est plus utile fondamentalement. Ce qui est utile, c'est ce qu'on ressent là. Ah, c'est ce que ce centenier, ouf, il a besoin à tous ses amis, ses intimes, qui sont venus en foule dans cette maison. On imagine un grand nombre de personnes. Et la conclusion de tout ça, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui descend, et eux qui sont baptisés. Voilà, c'est tout simple. Mais chapitre verset 44 à 48, baptême de l'Esprit, baptême de l'eau, ça y est, nous sommes rentrés dans l'ère moderne du christianisme. Nous sommes rentrés chez nous. Nous sommes rentrés avec nous. Le centenier, c'est notre grand frère. Et pour montrer que c'est pas un épisode anecdotique, vous l'avez bien compris, mais la Bible nous le montre encore plus, au chapitre 15, alors je ne sais pas qui tombera sur le chapitre 15, je ne vais pas aller trop loin, mais quand même, Il y a le concile de Jérusalem, quelques temps plus tard. Eh bien, dans ce concile, Pierre revient sur cette histoire des païens. Puis Jacques, qui n'est pas n'importe qui, a priori le frère du Christ, qui va reprendre la parole. Et je vais conclure en écoutant ce que dit donc au concile de Jérusalem. C'est-à-dire, on réunit les hommes importants de l'Église. Ça fait un très gros nom, concile, mais c'est une réunion des têtes pensantes. Et qui va valider cet épisode extraordinaire du centenier Corneille, devenu fils de Dieu comme les autres. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je releverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et à la fin, donc, on envoie Paul et Barnabas dans toutes les villes hors de Jérusalem, de la Galilée, etc., pour aller complètement en évangéliser au nom de Dieu tous les gens, tous les hommes, toutes les femmes qui sont, grâce à cet épisode du centenier, devenus éligibles à l'amour de Dieu, oui, mais au sauvetage par Dieu de nos iniquités, en quelque sorte. Voilà, donc j'ai peut-être pris un peu de temps, je m'en excuse si c'était un peu long, mais ça me paraissait essentiel, parce que s'il y avait un seul chapitre des Actes des Apôtres à lire, c'était celui-là. Parce que il nous met de plein pied dans l'amour de Dieu, et il donne l'exacte raison de notre présence ici, ce matin. Je vous remercie.